peu enregistré. On étudie depuis un moment l'épître de Jacques, et donc on va continuer ce matin cette étude en lisant, pour commencer, au chapitre 4, les versets 1 à 12. On aurait pu s'arrêter éventuellement au verset 10, mais les versets 11 et 12 vont plutôt avec les 10 premiers versets, même certaines Bibles mettent ça sous un même titre. Donc je vous propose tout d'abord de lire le passage, je vais le lire dans la traduction du Semeur. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture? Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil, pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Frères, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère ou qui se fait son juge critique la loi et la juge. Mais si tu juges la loi, tu n'es plus celui qui lui obéit, tu t'en fais le juge. Or, il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et faire périr. Mais pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain? Tu peux mettre. Donc, un sujet ô combien parfois délicat. J'attends que ça arrive. Ouais. La question qui est ici abordée dans ce début du chapitre 4, question relative aux conflits, aux luttes et aux querelles. L'ordinateur va moins vite que moi ce matin, visiblement il souffre de la chaleur plus que nous. Hein? Ah, voilà. Donc, les conflits et les querelles. Bon, je ne sais pas si vous voyez très très bien, moi je vois de moins en moins bien là, mais ces conflits, vous savez, ces conflits peuvent exister tout d'abord entre des personnes. Là, conflit entre deux personnes, peut-être, je ne sais pas si c'est la première image qui illustre ça, conflit dans le couple, je ne sais pas, ça peut peut-être parfois exister. Et on peut se poser la question, qui est d'ailleurs, on va y revenir, posée dans ce passage, mais d'où viennent ces conflits et ces querelles? Souvent, peut-être parce que chacun pense que c'est ça la bonne direction, que moi j'ai raison et que de toute façon, toi, tu as tort. Et puis, par rapport à des conflits entre personnes, des conflits de groupes, qui peuvent exister dans tout groupe ou organisation humaine, on voit fleurir dans la littérature, même dans le management, un ensemble d'ouvrages sur comment gérer les conflits, comment résoudre les conflits. Mais Vous allez me dire tout ça pour les chrétiens, pour l'Église, c'est pas pour eux, c'est pour les autres. Et puis, au pire, si c'est dans l'Église, c'est pour des questions doctrinales. Alors, si ce matin, je prenais exemple sur la petite photo à gauche, où j'arrive même plus à lire ce qui a marqué, mais je crois que c'est une promo pour l'onction, tout compris. Voilà, l'onction, tout compris à 40 euros. Période de solde dans l'Église, l'onction à 40 euros, tout compris. Là, effectivement, vous auriez raison de dire, je suis pas d'accord, quoi. Là, ça va pas du tout. Bon. Donc, conflit et querelle. Ce passage nous pose un ensemble de questions que je vous propose de reprendre et d'examiner. Qui est concerné? Pourquoi les conflits? Quelles en sont les conséquences? Qu'en pense le Seigneur? Et ça serait dommage d'en rester là, et heureusement Jacques ne termine pas ce passage par le verset 5, mais Jacques nous donne des pistes et un processus, des étapes à suivre pour résoudre ces conflits. Donc commençons par le premier point, rapidement, conflit, lutte, querelle, j'ai appelé ça un mal communautaire. Et oui, dès le premier verset, Jacques pose cette question sur laquelle on va revenir. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? Le « vous » dont il est question, on aurait pu penser, c'est les non-chrétiens, les gens du monde, comme certains les appellent. Détrompez-vous, détrompons-nous, il s'agit, mais j'ai envie de dire malheureusement, des chrétiens, ce n'est pas nouveau. Conflit, lutte, querelle, c'est malheureusement aussi un mal parfois communautaire au sein des églises. Les conflits, les querelles sont parfois liés à des points de vue différents quant à des points de doctrine. Mais je vous avoue, de ce que j'ai pu observer dans les églises, dans des fédérations d'églises, même si je ne suis pas un représentant national, dans des comités, voire même dans des familles chrétiennes, pourtant si évangéliques, ces conflits et ces querelles viennent souvent d'autre part. Les prétendues divergences théologiques sont souvent une façade qui cache autre chose. J'ai envie de dire l'arbre qui cache la forêt. Et qu'on n'a même pas le courage, et je dirais même l'honnêteté, de nommer. Oh, c'est tellement plus facile de justifier ces conflits et ces querelles par des questions théologiques. Alors, d'où viennent réellement ces conflits? C'est la question qui nous est posée. Voilà, c'était pour que vous endormiez pas. Voilà, et tu pourras défiler au fur et à mesure. Alors, voilà, la question qui est posée, mais alors, pourquoi ces conflits? Jacques nous donne des réponses très claires. Et je crois que ce matin aussi, peut-être que ce qu'on va dire, ce que je vais dire, peut éventuellement remuer en nous parfois certaines situations que nous avons vécues ou que nous vivons. Encore, le but, c'est pas de ressortir ici avec le moral à zéro, mais forcément, et je pense que Jacques fait bien, avant d'arriver aux solutions ou aux pistes de solutions, il faut commencer par faire un diagnostic. Et ce diagnostic, il faut le faire de manière honnête, sinon on n'arrivera à rien. Donc, il pose cette question au verset 1, mais d'où proviennent ces conflits et ces querelles parfois au sein de chrétiens, famille, église, fédération d'église si on veut élargir. Les raisons sont clairement identifiées dans le verset 1 et 2. Ces raisons, c'est quoi? Je reprends les termes utilisés. Justement, il ne va pas parler de doctrine, là. Il va dire quoi? Nos passions, nos désirs, nos convoitises, nos envies égoïstes. Autrement dit, ça semble venir de nous. Leur forme, ou je dirais leur sujet, peuvent être divers. Les quelques exemples que je vais donner ne sont pas limitatifs du tout. Et peut-être les avons-nous vécus, peut-être en avons-nous même été à l'origine, parfois. Et je vais oser dire certaines choses. Ces formes, ces sujets, parfois, sont peut-être d'ordre matériel. Bah oui. Entre chrétiens, des jalousies également. Bah, lui, il a plus que moi. Il a une plus belle maison, un plus bel appartement, une plus belle voiture. D'ailleurs, j'ai appris qu'il gagnait peut-être quand même pas mal. Il n'affiche peut-être pas aussi lourd que ça. Franchement, il ne mérite pas son salaire. Moi, bon. Plein de sujets qui peuvent être d'origine matérielle. Ensuite, il y a des sujets, je mettrais même entre guillemets, d'origine spirituelle. Enfin, j'allais dire faussement spirituelle. Ben oui, je suis jaloux de ma sœur, de mon frère, parce qu'il ou elle a un don que j'aimerais avoir, que je n'ai pas. Il ou elle est plus mis en valeur que moi. Il ou elle a été remercié et moi non. Et puis, vous pouvez continuer la liste. Parfois, il y a aussi des origines culturelles. Effectivement, ça serait beaucoup plus facile, et on le voit parfois même dans des milieux évangéliques, hein, je ne veux pas critiquer, mais d'avoir des églises qui sont que d'origine culturelle. Vous mettez une église où il n'y a que des Alsaciens. Ça va. Bon, une fois que vous y ajoutez des Lorrains, ça commence déjà à se compliquer. Mais vous voyez, parfois, des églises, excusez-moi, je dis ce qui me passe par la tête, d'origine haïtienne, d'origine ceci, cela. Bon, à partir du moment où on est tous de la même culture, enfin bon, il y a les autres raisons, mais ça peut poser moins de problèmes. À partir du moment où il y a déjà des gens, effectivement, de cultures différentes, de nationalités différentes, on a tous notre arrière-plan, culturel. Parfois, j'essaye d'être lucide, je l'ai observé, je peux même dire que je l'ai vécu, parfois c'est à l'origine d'incompréhensions, de querelles, qui sont honnêtement de cet ordre-là et qui ne sont pas du tout liées à des points de doctrine. Alors le fond, peu importe les sujets et les formes abordées, le fond, l'origine est pourtant la même. Je vais relire un verset suffira, que vous connaissez certainement par cœur. C'est le passage qui se situe dans Galates, au chapitre 5. Alors, c'est ce passage qui nous parle des fruits de l'esprit, mais aussi... avant les fruits de l'esprit, ce qui est lié à notre chair. Dans Galates 5, il y a le verset 19 que je vais laisser de côté, mais je vais lire uniquement le verset 20. Dans le verset 20, il est dit « L'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions. » Voilà, l'homme livré à lui-même, il produit tout cela. Et puis, il y a d'autres choses, avant l'immoralité, tout ça, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, le constat, il n'est pas nouveau, le constat, il est clair, ce qui produit colère, rivalité, division, haine, querelle, tout ça, qui est notre sujet, bah, c'est l'homme livré à lui-même. C'est les fruits de la chair et évidemment pas les fruits de l'esprit. Donc, si je suis un peu honnête avec moi-même, c'est que souvent, conflit et querelle, bah, ça vient d'où ? Ça vient de ma nature humaine, de ma nature séparée de Dieu, ou de la chair que je laisse à nouveau reprendre le dessus et qui produit cela. Quelles en sont, tu peux avancer, les conséquences ? Ouais, tu peux déjà un peu continuer parce que sinon on voit que des flèches. Le verset 2 de ce passage de Jacques, le verset 2 identifie clairement le processus. Quel est ce processus ? Au début, il y a la convoitise. Jacques dit : vous convoitez beaucoup de choses. Encore une fois, on dit peu importe, que ce soit à un niveau matériel ou autre. Cette convoitise, elle produit quoi ? Des insatisfactions. Vos désirs restent insatisfaits. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé d'être insatisfait, parfois d'être frustré ? Donc, convoitise, j'obtiens pas ce que je veux, je n'ai pas ce que je veux, donc, étape suivante, je suis frustré. Je suis profondément insatisfait. Et puis, ça va un stade plus loin, vous consumez en jalousie. Et, stade final, ben, ça se traduit en conflit et querelle. Un processus. Je pense que sous une forme ou une autre, on l'a déjà tous vécu. Dans ce passage, Jacques utilise des termes, mais alors très très forts, hein, qui peuvent même nous surprendre. Il nous est dit au verset 2 que dans ce contexte, il dit que vous êtes meurtrier. Alors bon, heureusement, hein, le terme meurtrier est bien sûr utilisé au sens figuré, mais ça montre quand même ce qu'il y a au fond. Hein. Voilà, je ne vais pas physiquement tuer, encore une fois, c'est des chrétiens hein, dont il est question, ma sœur et mon frère, mais il y a parfois des paroles qui tuent, des remarques qui tuent, des écrits qui tuent, des pensées. Heureusement que l'autre ne les voit pas toujours dans notre cœur. Les conséquences, ouais, tu peux continuer, se traduisent par quoi ? Que des exemples. On écrase l'autre, on le dénigre, voilà, on parle pas bien de lui. Et puis, vous avez dans ce passage, c'est pour ça que je l'ai ajouté, on ne va pas le reprendre en détail, les versets 11 et 12, où on voit que c'est des frères et des sœurs qui se critiquent les uns les autres. Frères, ne vous critiquez pas les uns les autres, parce qu'il est dit, sinon, bah, vous faites quoi ? Celui qui critique son frère, qui se fait son juge, critique la loi. Et le passage nous redit clairement, mais pour qui te prends-tu ? Toi qui juges ton frère. Et pourtant, parfois, ça arrive. Une fois qu'il a abordé ses conséquences, ben Jacques, je trouve, dresse un verdict sans concession et sans compromis. Il utilise au verset 4 un terme, effectivement, très très fort, qui peut nous surprendre, qui est le terme adultère. Il dit à ces chrétiens, peuple adultère que vous êtes. Il s'agit bien entendu là d'un adultère au sens adultère spirituel. Une rupture de l'engagement envers Dieu. Donc, c'est quelque chose de très grave. Je vous avoue que, en relisant ce passage, bah, au départ, j'étais un peu surpris que Jacques, en fait, parle du monde. Il dit « Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu ?» Je me suis dit « Mais dans quelle mesure, là, dans ce passage, querelle, conflit, il parle du monde d'un côté, bon, aimer le monde, c'est pas compatible avec aimer Dieu. Voilà, on trouve plutôt cette opposition entre aimer le monde et aimer Dieu sur d'autres thématiques. Je crois que ici, si Jacques utilise cette opposition aimer le monde et par conséquent haïr Dieu, ou aimer Dieu et par conséquent aimer ses frères et ses sœurs, c'est pour placer les chrétiens devant un choix. Jacques est en train de leur redire, de leur rappeler que entre le monde, donc rapidement dit ce qui s'oppose à Dieu, entre le monde et Dieu, il faut choisir. Pourtant, on a envie de dire, oui, mais là, c'est des personnes, c'est des chrétiens. Donc, ils ont déjà choisi. Ouais, dans leur vie, un jour ou l'autre, oui, ils ont choisi clairement de suivre Dieu. Ils se sont peut-être même fait baptiser. Voilà. Et pourtant, là, ce qu'ils constatent, sinon ils n'en parleraient pas, c'est quelque chose qui ne va pas. Les deux ne sont pas possibles. Il est en train de leur dire, mais... Vous qui prétendez aimer Dieu, vous qui prétendez peut-être même servir Dieu, et je vois ça, excusez-moi de vous le dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il le traduit très fortement dans le verset 5. Alors je sais, mais je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là, le verset 5 fait l'objet de quelques interprétations diverses, notamment... de savoir si lorsqu'on dit Dieu ne tolère aucun rival, est-ce que c'est l'esprit, ce que moi j'ai aussi dans ma Bible avec un grand E, donc le Saint-Esprit, ou l'esprit de jalousie qui peut être dans l'homme et la femme. Mais ce verset 5, on voit que Jacques dit que le compromis n'est pas possible. Il redit à ses chrétiens, prenez-vous pour des paroles en l'air, ce que dit l'Écriture, autrement dit, mais est-ce que vous prenez à la légère la parole de Dieu, ou est-ce que vraiment vous souhaitez mettre en pratique la parole de Dieu? Et il leur dit, Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Voilà, ben, si je suis chrétien, là c'est de la doctrine, si je suis chrétien, j'ai reçu le Saint-Esprit. Voilà, ça... La parole de Dieu nous le dit. Et donc le Saint-Esprit habite en moi. Mais si je laisse querelle, lutte, conflit se développer en moi, et on voit dans ce passage aussi, il y a de nombreux termes qui sont utilisés, combattre. Vous voyez, on voit qu'il y a une tension, qu'il y a un conflit entre le Saint-Esprit qui habite en moi, l'Esprit de Dieu qui veut agir en moi, au travers de moi, et... ces différentes origines, ces différentes sources qui viennent, on l'a dit tout à l'heure, qui viennent de ma chair, qui viennent de ce qui s'oppose à Dieu. Se laisser développer conflit et querelle, et d'un autre côté dire aimer Dieu et servir Dieu, n'est pas normal et même incompatible. Mais, dans ce cas-là, se pose la question centrale, que faire ? Une fois le constat dressé, la vraie question est de savoir où est la solution. Heureusement, la suite du texte du chapitre 4 nous apprend que nous ne sommes pas livrés à nos propres forces. Pour affronter, soyons honnêtes, parfois des désirs en nous, des désirs charnels qui s'opposent à l'esprit, qui s'opposent à Dieu. Nous ne sommes pas condamnés à laisser développer ses envies, ses désirs, ses pulsions, ses convoitises. La victoire est possible et, j'allais dire aussi, la réconciliation avec des personnes individuelles, plus collectives, avec qui on a eu des sujets de querelle ou de conflit, cette réconciliation est possible. Intéressons-nous donc, pour terminer, mais un peu en détail, aux solutions. Vaincre les conflits et querelles. Premier point important, la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu, Jacques nous la rappelle au verset 6. Il nous dit « Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. » Pour dépasser et vaincre des conflits et des querelles, oui, c'est vrai, on a besoin de la grâce de Dieu. Parce que parfois, les conséquences sont tellement importantes que, humainement parlant, ça semble impossible de se réconcilier, ça semble impossible de régler l'objet et le sujet du conflit. Mais il y a la grâce de Dieu. Et j'aime bien cette expression, mais bien plus grande est la grâce de Dieu. Ce qui nous indique que, malgré l'étendue parfois des dégâts, la victoire, la solution est possible. Mais s'il aborde la grâce de Dieu, au verset 6, en disant aussi « Il accorde sa grâce », il y a quand même un terme qui va avec, c'est qu'il accorde sa grâce aux humbles. Donc, je pense que c'est important de réaliser que pour aller plus loin dans la gestion, il me semble, de querelles et de conflits, il faut de l'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, l'humilité, et c'est pas chose facile, l'humilité, c'est de se placer peut-être d'abord individuellement devant Dieu, parce que peut-être que devant l'autre, ça sera dans un premier temps plus difficile de reconnaître certaines choses, parce que le masque tombe et parfois on a du mal à dire ou à avouer certaines choses. Mais se placer devant Dieu, déjà, pour objectivement essayer de voir où est le vrai problème. Je l'ai déjà dit, mais combien c'est facile de dire le problème, c'est l'autre. Le problème, il est d'ordre spirituel, doctrinal, et de ne pas reconnaître que peut-être le problème, il vient de mon cœur, de mes envies, de mes désirs. Vous pouvez passer des heures entières, des journées entières, à parler avec des personnes sur des sujets de conflit, et ça servira absolument à rien. Pourquoi ? Parce que si déjà, au départ, on n'a pas l'honnêteté, l'humilité de reconnaître d'où vient vraiment le problème, vous pouvez parler des heures. Des journées entières sur « qu'est-ce qui a fait que tu as quitté telle église ? Qu'est-ce que tu fais que ceci, cela ?»« Ouais, parce que j'étais pas d'accord avec le pasteur. Ah, j'étais pas d'accord avec les anciens sur tel point de doctrine. » Honnêtement, était-ce bien ça ? Parfois, c'est vrai qu'il y a des cas dans certaines églises où il y a malheureusement, il y a eu des divisions parce qu'il y a des points de doctrine qui font que les uns, ils vont vers un autre courant de pensée, d'autres vers un autre. J'allais dire, il n'y a pas forcément mort d'homme non plus. On a le droit d'avoir certaines divergences. Et puis, vaut mieux aller dans une église où on se sent à l'aise que dans une église où on se sent pas à l'aise sur le point de vue doctrinal. Mais parfois, c'est tout autre chose. Donc, si au départ, on n'a pas l'humilité de reconnaître que le fond du problème, il est peut-être autre part, on peut arrêter la discussion tout de suite parce que c'est du temps perdu. Par contre, et ça demande de l'honnêteté, ça demande de l'humilité d'abord, de se placer devant Dieu, et après, de dire peut-être au frère, tu sais, ou à la sœur, tu tu sais, le vrai problème, je dois te le dire, il est autre part. Un jour, tu as dit ça de moi. Un jour, voilà, j'attendais autre chose de toi. Un jour, ceci ou cela. Mais est-ce que on est d'accord, on est prêt à faire ce pas? Dieu fait grâce. La grâce surpasse tout. Mais Dieu, il est dit, résiste aux orgueilleux. Si je pense toujours avoir raison, si je pense que c'est toujours l'autre, si je pense que c'est justement ce que je mets en avant et en fait c'est pas le fond du problème, ben oui, je fais preuve d'orgueil. Mais Dieu fait grâce aux humbles et pas aux orgueilleux. Et puis, là, Jacques nous propose quelques étapes à suivre pour que il puisse y avoir, je dirais, réconciliation, pour que ces conflits et ces querelles puissent trouver des solutions. Il est intéressant de voir qu'il utilise dans ce passage de nombreux verbes à l'impératif. Autrement dit, c'est des ordres, mais des ordres assortis de promesses. C'est toujours un peu comme ça, pour en bénéficier des promesses, il faut examiner également ces ordres. Premier ordre qu'il donne à ces chrétiens, alors, voilà, on va juste les reprendre, je vais « Soumettez-vous à Dieu. Soyez prêts à écouter Dieu. Soyez prêts à lui obéir. » Je crois que c'est ça la première étape, se placer devant Dieu, se soumettre à Dieu. Parce que si je ne me soumets pas à Dieu, ça veut dire que c'est toujours moi qui prétends être le maître et celui qui va essayer peut-être de piloter, de trouver la solution au conflit ou à la querelle. Non, soumettez-vous à Dieu. Deuxièmement, il est dit « résistez au diable ». Dire non dans nos vies, dire non dans nos cœurs à ce qui fait le jeu de l'ennemi, j'allais dire du véritable ennemi, qui lui évidemment se plaît à voir des personnes se quereller, se diviser, tout cela. Résister au diable. Mais vous voyez, ça ne marche pas, j'ai envie de dire, si on n'est pas passé par la première étape, soumettez-vous à Dieu. Parce que si je ne me soumets pas à Dieu, je ne gagnerai pas sur ce terrain-là. Parce que, par contre, si je me soumets à Dieu, lui donnera la victoire peut-être en moi à ceux qui s'opposent en moi et qui me permet pas naturellement de résister au diable. Troisièmement, il est dit « Approchez-vous de Dieu ». Je crois que là, derrière cela, il y a l'idée de repentance aussi, l'idée de repentance honnête. Je ne l'ai pas vraiment abordé, mais il est dit dans ce texte, au début, que on voit même la forme que ça peut prendre pour nous chrétiens. Parfois, on demande des choses à Dieu. Évidemment, ces choses ne peuvent pas être exaucées parce que la motivation profonde, c'est nous, quoi. Voilà, c'est nous. Je demande à Dieu je vais prendre un exemple, je pense que justement, qui n'est pas d'actualité parmi nous, si par jalousie vous dites moi, Dieu, je veux être ceci ou cela dans l'église, si c'est parce que ça vient d'une envie personnelle, purement charnelle, je pense qu'il fera bien de ne pas m'exaucer. Voilà. Par contre, si on s'approche de Dieu, dire voilà, j'aimerais, Seigneur, que tu me montres comment mieux servir au sein de l'Église, comment mieux servir mes frères et mes sœurs, et on est dans un esprit de service, ou au sein de ma famille, que tu me montres mieux quel puisse être mon rôle, comment je peux mieux aider, comment je peux mieux... Là, je crois que le Seigneur va nous aider, va nous ouvrir les yeux. Mais l'état d'esprit est différent. Approchons-nous de Dieu. Ensuite, il est question de faire, quatrièmement, le ménage. Nettoyez vos mains et purifiez vos cœurs. Je crois que ces deux expressions, nettoyez vos mains, là, il est plutôt question de nos actions, de ce qu'on fait. Parfois, faire le ménage dans nos vies de ce qu'on fait, de ce en quoi, peut-être, on s'engage. Et puis, purifiez vos cœurs. Je crois que là, on est plus sur le terrain de nos désirs, de nos motivations. Ça, parfois, ça se voit moins par les autres. L'humain, ça se voit. Ce que je fais, ça se voit. Ce qui est dans mon cœur, ça ne se voit pas. Mais c'est important de faire le ménage, et pas qu'au printemps. Voilà. C'est pas facile de faire le ménage à l'église quand vous êtes sur le programme. Mais parfois, il y a un autre ménage à faire dans nos cœurs. Et puis, les mêmes questions, cinquième étape, d'être dans le deuil. Alors, on voit bien, pas parce qu'on aurait perdu là un être cher, mais sentez votre misère, soyez dans le deuil. C'est parce que, voilà, si on se place devant Dieu, comme il nous est demandé de le faire, avec honnêteté, avec humilité, peut-être que parfois on se dit, mais qu'est-ce que je suis ? Je vous laisse compléter la phrase. C'est, enfin, vraiment, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte de ce qui m'anime. Et j'ai encore plus honte de ce que ça a finalement produit comme conséquence. Et tout ça, dernière étape, normalement, il y en a encore une. Voilà. Ça trouve, je dirais, son couronnement dans humiliez-vous ou abaissez-vous devant Dieu. Si je fais cela dans ma vie, ben je suis au bénéfice, et je terminerai là-dessus, des promesses que Jacques nous redonne dans ce passage. Si je me soumets à Dieu, je vais avoir la victoire parce qu'il est dit que le diable fuira loin de moi. Dieu s'approchera de moi. Et si je m'humilie devant Dieu au regard de ce que j'ai pu commettre comme choses qui ont eu des conséquences négatives, il est dit que Dieu, c'est lui qui me relèvera. C'est lui qui me relèvera, et je n'ai même pas besoin d'attendre peut-être le pardon ou la parole bienfaisante de mon frère ou de ma sœur. C'est Dieu qui me relèvera. Et je crois qu'il faut rester sur cela, hein, mais c'est vrai que dans certaines situations, il est utile, indispensable, incontournable de faire un diagnostic. Voilà, parce que sinon, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Faire un diagnostic honnête, faire un diagnostic le plus objectif possible, parfois peut-être avec l'aide de tierces personnes, parce que parfois on n'y arrive pas par soi-même, mais dans le but d'avoir ces victoires sur ces conflits, ces querelles qui, encore une fois, on peut se l'appliquer, peuvent être parfois familiaux, peuvent être parfois dans d'autres contextes. Mais là, il n'est pas question des conflits et des querelles avec mon collègue de travail, peut-être non chrétien, avec dans mon association de ceci ou cela. Là, il est franchement question de cela entre chrétiens. Alors, si Jacques a tellement insisté là-dessus, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Voilà, on a presque envie de dire ça a toujours existé, et dans les églises et entre chrétiens aussi. Mais ce n'est pas pour autant que le Seigneur nous encourage à nous y complaire. Au contraire, le Seigneur nous rappelle qu'il y a la grâce qui dépasse toute situation de conflit et de querelle. Mais Dieu fait grâce aux humbles et pas aux orgueilleux. Amen.